Alors je vous fais passer, je pense qu'il y aura à peu près un par personne, mais sinon vous suivez à deux. Alors j'ai choisi de vous parler du Cantique des Cantiques. Parce que, disons, je trouve que ce qui qualifie spirituellement le temps de l'Avent, c'est à la fois le désir et l'attente. Voilà, le désir et l'attente, désir de Dieu, attente de Dieu qui vient parmi nous. Et il me semble que le Cantique des Cantiques joue énormément sur ces deux réalités qui sont liées, l'attente et le désir. Pour être tout à fait honnête, je l'ai aussi choisi parce que je l'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, parce que je vais faire un séminaire de recherche au deuxième semestre sur le Cantique. Donc, voilà, j'ai joint l'utile à l'agréable. Mais bon, je pense que c'est quand même pas trop capillotracté. Mais par ailleurs, je suis déjà écrasé par la difficulté de la tâche, en fait. Je crois que je m'en sortirai pas et parce que c'est un texte extraordinairement difficile. Je pense que c'est le texte le plus difficile de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Difficile, notamment à cause de la profusion des interprétations. C'est pour ça que ça m'intéresse. Mon séminaire, c'est un séminaire d'herméneutique, mais justement, ça va être consacré au Cantique des Cantiques à cause de ce problème herméneutique particulier qui est... la place qui est laissée à la subjectivité du lecteur pour trouver le sens de ce texte qui n'est pas très long. Mais on est obligé, le texte demande du lecteur qu'il y mette quelque chose de lui-même, alors du coup, selon ce qu'il y met, ça peut partir dans une direction assez différente. Alors fondamentalement, ce que je pense maintenant, c'est que ce texte doit être lu à trois niveaux. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le sens littéral, mais même là, j'hésite à dire ça. Je vais prendre une expression qui est celle de Ricoeur, je dirais le monde du récit. Alors, c'est pas un récit, c'est pas la forme d'un récit. Je crois quand même qu'il y a une trame et une intrigue narrative. Ça, je crois que c'est important pour l'interprétation. C'est en gros ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Enfin, il y a le monde du récit. Alors, il faut déjà comprendre ce qui se passe et il y a déjà pas mal d'options à faire à ce niveau-là. Il y a un deuxième niveau, c'est de saisir ce texte dans le corpus vétérotestamentaire et même, je dirais, biblique dans son ensemble. Quand on creuse un petit peu le vocabulaire, les tournures en hébreu, évidemment, on se rend compte que c'est des mots rares, mais c'est souvent des mots qui sont très chargés de sens, notamment dans le corpus prophétique. Tout ça n'est pas du tout anodin, ça veut dire que ce texte appelle à être lu non pas comme un appendice ou un accident de parcours dans le corpus biblique, mais comme peut-être un sommet ou un centre, de l'ancien. Moi, je dirais volontiers que c'est un centre organisateur. Mais enfin bon. Alors, ça serait une deuxième lecture, vous voyez, une lecture qu'on appelle canonique. Alors, il y a le monde du récit, puis il y a une lecture canonique. Et puis le troisième niveau, qui est alors évidemment peut-être le plus intéressant. Ça serait la lecture spirituelle ou allégorique, qui en fait est la lecture traditionnelle aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Ce texte, il est lu dans le judaïsme comme à deux niveaux. Donc d'abord redisant autrement l'histoire d'Israël, et l'histoire qui est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour compliquée entre Dieu et son peuple, comme les prophètes nous la font connaître, cette histoire, mais aussi, alors ça c'est dans un judaïsme un peu plus confidentiel, mais qu'un grand chercheur qui s'appelle Gershom Scholem a remis en évidence, c'est toute la partie mystique du judaïsme, utilise le Cantique des Cantiques aussi dans une perspective mystique, donc de ce qui se passe dans l'âme, dans la conscience, quand on est uni à Dieu. Et du côté chrétien, alors il y a trois niveaux de lecture allégorique qui correspondent vraiment, c'est dans la continuité et l'approfondissement de ce que fait Israël avec ce texte. Il y a l'union du Christ et de l'Église, comme l'union de Dieu et d'Israël, il y a l'union du Christ et de l'Église. Mais il y a aussi, surtout dans la tradition bernardine, la tradition cistercienne, l'union de Jésus et de Marie, du Christ et de sa mère. Et puis, alors, dans une grande tradition mystique qui remonte à Origène et qui existe encore aujourd'hui, c'est l'union de Dieu et de l'âme, donc un peu comme dans la lecture mystique juive, mais évidemment c'est spécialisé, c'est coloré par le contexte chrétien. Alors, je ne vais pas vous parler du troisième niveau, quasi pas, même pas du tout, enfin quasi pas, pas non plus du deuxième. Moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'assez modeste, mais déjà ça, c'est je suis effondré en me disant que je n'y arriverai jamais, c'est essayer de vous aider à saisir le monde, alors, le monde du récit, enfin le monde, comment dire ça, le monde du poème, enfin bon, le monde, c'est-à-dire, vous voyez, il faut prendre ça de manière très phénoménologique, c'est-à-dire que il y a des personnages, il y a des paroles, tout ça élabore un monde dans notre conscience. On essaye de le décrire, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas le sens littéral, mais enfin, il faut en passer par là, parce que c'est ça, c'est tout simplement ça, lire un texte. En fait, hein, c'est laisser se déployer, ça pose, ça construit un monde dans notre conscience, plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Alors on a besoin de clés, ça j'en suis convaincu, il y a besoin de clés pour lire ce texte, et donc je vais essayer de vous donner ces quelques clés, même pas toutes, hein, même pas toutes. C'est un texte qui a été, alors juste une donnée d'histoire, à la fois littéraire et théologique, c'est un texte qui a eu des difficultés à entrer dans le canon, être reconnu comme parole de Dieu. Il y a une expression technique du judaïsme pour dire qu'un livre est inspiré, nous c'est comme ça qu'on dit, on dit il souille les mains. Alors, c'est un peu curieux, oui, c'est lié à la notion de sainteté et de pureté. En fait, ça souille les mains parce que ce qui appartient à Dieu fait qu'après on ne peut plus aller dans le monde profane sans prendre un bain de purification. Donc c'est pas que c'est sale, mais c'est tellement saint que du coup c'est habité par la gloire de Dieu qui se communique à nous, en particulier dans le corps, et donc il faut faire quelque chose. Donc un livre qui ne souille pas les mains, par exemple, je ne sais pas, un livre l'algébrique géométrie de Robin Hartshorne, par exemple, ça ne souille pas les mains, donc ça vous pouvez le prendre, le poser dans sur votre table. Un livre biblique, normalement, si on avait un peu de religion, on se laverait les mains avant, et en le lisant, les juifs pieux font encore des trucs comme ça, je pense. Hein, et puis après, en le refermant, on fait un rite, parce qu'on a été en contact avec une sphère qui est au-delà de la sphère mondaine habituelle. Alors la question, c'est est-ce que ça souille les mains ? Le traité Yadayim du Talmud a gardé mémoire de la décision par laquelle on a dit, mais c'est un livre inspiré, c'est Rabbi Akiva, ou Akiva, qui dit ceci, personne n'a jamais contesté en Israël que le cantique souille les mains. Alors, si on dit ça, c'est qu'en fait c'est très contesté, hein, ça c'est toujours vrai. Hein, tout le monde reconnaît que, donc en langage ecclésiastique comme en langage, ça veut dire il faut se battre pour que, bon, ça faut connaître un petit peu. Donc personne n'a jamais contesté en Israël que le cantique souille les mains, car le monde entier fut incomparable. Attends, je comprends pas ma phrase là, le monde entier. Ma phrase, j'ai dû rater quelque chose là, dans la citation. Là, c'est bien dommage, c'est une belle citation. Alors là, ça ne veut absolument rien dire. Bon, bah, je vais gloser. Alors, Rabbi Akiva dit, car le jour où le cantique a été écrit et transmis à Israël, c'est le jour le plus sublime du monde, parce que, alors c'est ça la citation, la comparaison intéressante, si toutes les écritures sont saintes, le cantique est la plus sainte des écritures. La sainteté, donc je vous rappelle, c'est la présence de Dieu dans le temps. Et Rabbi Akiva dit, ben, les autres livres, c'est comme la sainteté du sanctuaire dans le saint, mais il y a une chambre secrète, celle vraiment où Dieu habite, celle-là c'est le saint des saints. Et dans la Bible, le cantique des cantiques est équivalent du saint des saints quand les autres livres sont simplement le saint. Ceux qui étaient à Arad, cet été, vous vous souvenez du temple à Tel Arad? Non, personne. Hein, si, c'est bien qui a dit ça. C'est très bien. Donc vous vous souvenez la petite chambre où il y avait les deux macévotes, là, bah, ça c'est un dessin. Et alors dans le Talmud, on a aussi un verset intéressant parce que ça prend à rebours une grande tendance lourde de l'exégèse depuis le 19e siècle, donc l'exégèse allemande, qui disait, bah, en fait, bon, ce cantique des cantiques, il faut arrêter de raconter des histoires, c'est juste des chants amoureux, donc c'est de la poésie érotique comme il y a dans toutes les cultures, donc c'est... Voilà, c'est tout. Bon, alors comme c'était bien tourné, on dirait ouais, c'est quand même assez stylé ce truc. Bon, bah, Il faudrait être sûr que ça se conserve. Allez, hop, pouf, on met dans la Bible. Donc, alors, je suis tout à fait hostile à cette interprétation. Et, voilà, mais, alors, il se trouve que le judaïsme aussi, puisque dans le traité Sanhédrin, on a cette phrase « Nos maîtres ont rapporté celui qui lit un verset du cantique pour le tourner en chanson ». Ou celui qui lit un verset dans un banquet, probablement un banquet de mariage, hors de son temps, amène le malheur sur l'univers. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, c'est pas un récit, mais disons que c'est une pièce de théâtre. C'est ça, comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a une intrigue qui va avancer avec des tableaux. Et là, tous les exégètes sont plus ou moins d'accord quand même sur les différents tableaux. Il y a 5 tableaux. Alors, je vous ai mis les titres. Alors, les titres, en gros, donc c'est moi, hein, c'est pas dans le... Enfin, c'est... Donc, il y a le titre, le Cantique des Cantiques de Salomon. Premier tableau, le roi, qui est un des deux personnages principaux du Cantique, invite... Alors, Shulamit, c'est le nom que la femme, le deuxième personnage principal du Cantique, reçoit, enfin, on connaît à la fin du Cantique, un nom qui, d'ailleurs, est de la même racine que Shlomo, qui est le nom du roi, c'est Shlomo et Shlomit, hein, donc c'est... voilà, donc c'est... Alors, le roi invite cette femme, Shulamit, au palais royal à Jérusalem. Ok. Deuxième tableau, il faut faire comme vous étiez metteur en scène, hein, c'est un truc que j'ai envie de faire, enfin ça a sûrement été fait, mais faire en pièce de théâtre. Deuxième tableau, deuxième scène, le roi va chercher Shulamit chez sa mère. On nous dit pas comment elle est passée du palais chez sa mère, mais on comprend que c'est une autre scène et qu'elle est chez maman. Et le roi vient la chercher. Le troisième tableau, c'est les noces du roi et de Shulamit, avec la nuit de noces. Le quatrième tableau, alors, est assez énigmatique. À mon avis, il y a déjà quelque chose de... Enfin bon, il y a une séparation entre les deux qui arrive. Alors, j'ai noté une tragique séparation. Et puis, le cinquième tableau, il y a des retrouvailles. Donc, vous avez tout ça sur le texte. Hein. C'est pas la peine de vous voir noter, là, mais il faut être paresseux. Il faut pas noter ce que je vous ai déjà... Et alors, le truc le plus énigmatique de ce cantique, c'est les derniers versets. Quand vous allez voir dans la BJ, alors là, les notes, ça me fait rigoler. Ils disent, oui, en fait, c'est sans doute des bouts de chants amoureux. On a perdu la femme. On se dit, mais quand même, le début est bien troussé. Donc, on va coller ça, mais ça ne suit pas. Enfin, en gros, alors... Quand quelqu'un dit ça, il y a de fort à parier, si c'est dans la Bible, qu'en fait c'est là qu'on a le truc le plus important. Et c'est ce que je pense. Je pense que l'épilogue, c'est de fait un épilogue parce qu'on quitte la trame, notamment parce que la femme, on va faire mémoire de quand elle était petite fille. Donc ça ne suit pas les autres scènes. Mais c'est là où il y a la seule occurrence du mot Dieu dans l'épisode. Et donc c'est là où, à mon avis, on a une espèce de... Le cantique nous appelle à une transfiguration théologique, donc celle qu'il faudrait avoir dans les deux niveaux que je ne vais pas traiter. Alors, je vais simplement lire le cantique et je vais vous donner quelques précisions pour que vous compreniez. Donc c'est très simple, hein. Très simple. Donc le cantique des cantiques, ça veut dire le meilleur des cantiques, quoi. Un cantique, ça c'est comme ça, les Hébreux, c'est-à-dire un cantique, c'est trop de la balle, quoi. Enfin, donc, de Salomon. Alors, premier tableau. Ah oui, alors, pardon. J'ai mis entre parenthèses les intervenants. Ça, c'est pas dans le texte. Ça fait partie de l'acte interprétatif. Il y a en gros consensus pour pas mal de trucs, mais il y a un moment où on fait des choix. Donc, j'ai fait certains choix. En particulier, je distingue le cœur des dames du palais. Donc, je pense que c'est plus cohérent. Mais je l'ai mis entre parenthèses pour vous aider à suivre et aussi pour vous dire ça, c'est pas. Enfin, vous avez le droit de faire d'autres choix. Moi, je vous propose. Alors, elle. Qu'il me donne des baisers de sa bouche, meilleurs que le vin sont tes amours. Délice l'odeur de tes parfums, ton nom un parfum qui s'épanche, ainsi t'aiment les jeunes filles. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a fait entrer en ses demeures. Donc, et ça commence tout de suite dans un registre assez sensuel, hein, avec des comparaisons qu'on va avoir alors, tout au long du cantique. Il y a la dynamique du désir, donc entraîne-moi, courons à ta suite, et une précision qui nous permet de situer la scène, le roi m'a fait entrer dans ses demeures. Donc c'est bien ça qui permet de dire qu'on est au palais du roi. Alors les jeunes filles, c'est qui les jeunes filles? Ben ouais, dans la cour, toute cour royale qui se respecte. Alors surtout Salomon qui était plutôt porté sur la chose. Donc il y a des jolies dames en belles robes et tout ça. Enfin, c'est que Versailles, hein, tous ces trucs-là. Donc et donc il y a les dames du palais. Alors c'est ces jeunes filles. Alors elles vont prendre la parole. En toi notre fête et notre joie. Donc elles s'adressent en toi. Alors l'hébreu, oui. L'hébreu est, comment dire, la grammaire de l'hébreu est beaucoup plus, marque beaucoup plus le masculin, enfin le féminin qu'en français, donc notamment dans les prénoms suffixés. Ça facilite l'interprétation. Il y a des toits où en français on pourrait se dire mais à qui on parle. Alors, là, bon, elle parle au roi, hein, ça c'est, donc c'est le roi. En toi, notre fête et notre joie, nous redirons tes amours, meilleurs que le vin, il est juste de t'aimer. Donc elle corrobore le fait que le roi, tout le monde est, enfin toutes ces dames sont. C'est comme une star de la chanson, quoi. Toutes ces dames sont folles de lui. Elle, noire, je le suis, mais belle, fille de Jérusalem. Nigra sum sed formosa. Hein. Donc, noire, je le suis, mais belle, fille de Jérusalem, pareille aux tentes de Kédar, au tissu de Salma. Ne regardez pas à ma peau noire, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Raconte-moi, bien-aimé de mon âme, où tu mènes paître tes brebis, où tu les couches aux heures de midi, que je n'aille plus m'égarer vers les troupeaux de tes compagnons. Alors, première surprise, hein, donc il y a plein de rebondissements et de trucs très bizarres dans ce. Pourquoi elle dit ça? Alors, dans le monde antique, c'est tout le contraire de chez nous. Nous, aujourd'hui, c'est plutôt les starlettes, elles sont bronzées, de façon genre le bronzage, hein, on paye des cabines de bronzage. Dans l'Antiquité, c'est le signe de la condition servile. Et donc on est bronzé parce qu'on travaille dehors. Quoi. Puis alors, au Proche-Orient, le soleil, on a eu un petit aperçu cet été, donc on est vite bronzé. Donc, au contraire, la peau pâle, la peau blanche, c'est le signe de la noblesse, parce qu'on ne fout pas le nez dehors, en fait. Hein, donc, Alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça? C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que, alors on n'a pas le ton des dames du palais, juste avec les mots, mais qu'elle sent peut-être... quelque chose d'un peu moqueur dans les dames du palais. On va voir que les dames du palais et, j'ai mis elle, donc Shulamit, il y a une vraie, comment dire, il y a une vraie jalousie et une vraie concurrence qui va peut-être se résoudre à la fin. Hein, mais les dames du palais ont un rôle important. Dans la tradition juive, c'est les nations païennes qui sont jalouses d'Israël, qui est aimée du roi d'Israël. Hein, donc, bon. Alors, noir, je le suis, donc elle dit, c'est d'accord, ok, vous le prenez de haut, je reconnais que je suis noir, mais pourtant je suis belle. Hein. Et elle prend des comparaisons qui justement essayent de valoriser sa noirceur, alors que normalement, eh ben non, mais écoute, retourne, voilà, toi, visiblement, qu'est-ce que tu fous ici? Donc, retourne dehors avec les esclaves, ta place n'est pas parmi nous. Donc, ne regardez pas à ma peau noire. Alors, il y a une allusion donc au fils, donc à ses frères, qui feront une réapparition dans l'épilogue théologique. Et elle reconnaît donc, de fait, elle est bronzée, elle est noire, parce qu'elle a gardé des vignes. Et que du coup, ma vigne, alors c'est son corps en fait, hein, oui, donc, ma vigne à moi, donc ce qui porte du fruit, ce qui va être très intéressant dans les métaphores amoureuses, hein, ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Et tout de suite, elle se retourne vers le bien-aimé, parce qu'elle sait que le bien-aimé, contrairement aux dames du palais, ne va pas faire des remarques désagréables sur son teint. Et donc aussi sur sa condition sociale. Alors, les dames du palais, donc, raconte-moi bien-aimé, où tu mènes pète tes brebis. Donc, parce qu'elle, vous voyez, elle dit, ben, ok, moi je suis une fille de la campagne, si vous voulez, je suis une condition servie, mais le roi, alors, Salomon, fils de David, David, on sait que son boulot du début, c'était quoi son job avant d'être roi? Il était berger. Oui, donc il y a une discrète allusion de dire « Ok, vous vous foutez de ma gueule, mais n'empêche que, par certains côtés, je suis plus proche de la dynastie royale que vous, mesdames. » Alors, les dames du palais, là, vont répondre de manière un peu carrément méchante. Elle dit « Si tu ne le sais pas, ô belle entre les femmes, va dehors sur les traces du troupeau et mène paître tes jeunes chèvres vers les tentes des bergers. » En gros, au lieu de nous faire en concurrence avec le roi, sachant qu'on a tous des visées sur lui... va donc voir ceux de ta condition, donc va voir les bergers, peut-être que tu trouveras quelqu'un pour toi, mais si tu sais même pas, voilà, si tu sais pas, donc elle tourne, vous voyez, en mauvaise part les propos pleins de confiance de Shulamit. Et alors, heureusement, le roi arrive et tout de suite, il va complimenter. La première parole du roi pour Shulamit, c'est une parole de compliment. Enfin, c'est, ça fait un peu penser donc, à la première parole d'Adam pour sa femme, donc une parole qui met en évidence sa beauté. Cavale. Alors, oui, bon, messieurs, si. Alors, il y a quand même distance culturelle, hein, donc il ne faut pas forcément, si vous comptez fleurette à une jeune fille, méfiez-vous quand même des métaphores. Si tu dis, mais t'es une cavale, en fait. Bon, il y a un vrai décalage, hein, mais c'est important de sentir ces choses-là. Salomon, qui était réputé pour ses chevaux, hein, ça faisait partie de sa puissance. Alors, cavale, on peut dire que c'est quelque chose de. C'est ce que Salomon a eu du mal. Il a mis tout son argent pour avoir ses chevaux. Donc c'est bon, dans l'histoire de Salomon, c'est important. Donc, cavale attelée au char de Pharaon, ainsi tu m'apparais, ô mon ami. Quel charme tes joues entre tes boucles, ton cou entre les perles. Nous te ferons des boucles d'or incrustées d'argent. Quoi. Genre, si les dames du palais te cherchent noise parce que t'as pas un truc, ben moi je vais te faire des bijoux qui vont rehausser ta beauté. Et elles seront que jalouses, les vilaines. Elle, quand le roi est dans ses enclos, mon parfum répand sa bonne odeur. Mon bien-aimé, pour moi, est un sachet de myrrhe. Entre mes seins, il passera la nuit. Mon bien-aimé, pour moi, est un rameau de cypre parmi les vignes d'En-Gedi. En-Gedi, on y a été. Hein. Souvenez comme c'est beau, hein, En-Gedi. Je vous avais parlé peut-être du cantique. Je crois pas qu'on avait lu le cantique. Mais alors, En-Gedi, c'est sur la mer morte. C'est vraiment l'endroit là où tout est mort. C'est l'endroit paradisiaque où il y a des sources et où donc il y a de la vie. Et où il y a un jardin magnifique qui fait un peu penser au jardin d'Éden, si vous voulez. Enfin, il y a quelque chose de. Alors, la bien-aimée, donc répond évidemment au compliment du roi avec enthousiasme, avec. Elle signifie déjà son désir hein, de le connaître et peut-être même de s'unir à lui. Et avec cette idée, quand même, de dire mais finalement, on sera quand même mieux en dehors de ton palais. À En-Gedi, là où d'ailleurs le roi David s'est réfugié quand il fuyait devant les soldats de Shaul, on sera peut-être quand même mieux tout seul dans ce jardin que dans tes beaux appartements, tous ces ors et tous ces trucs. C'est peut-être très beau Versailles, mais enfin, voilà, y a peut-être c'est pas forcément le cadre idéal pour notre amour. Lui, ah que tu es belle, mon ami, ah que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Elle, ah, que tu es beau, mon bien-aimé, tu es la grâce même. La verdure est notre lit, elle y tient, hein, la nature. Hein. La verdure est notre lit, les cèdres forment les poutres de notre maison. Le livre des rois nous dit que les poutres du palais, c'était du petit truc du cèdre, c'était des machins, ça du Liban, ça a coûté un bras, ce truc. Et elle dit, mais moi, je serais plus heureuse à En-Gedi. Elle a bien raison, d'ailleurs, En-Gedi, c'est quand même. Et les cyprès, nos lambris. Je suis la rose du Sharon, le lys des vallées. Vous voyez comment le compliment de cette femme qui était humiliée quand même par les dames du palais, recevant la parole du roi, elle est capable de se présenter comme Shoshana, hein, le lys, hein, c'est ça, Suzanne, hein, Shoshana, donc le lys des vallées et la rose du Sharon. Quoi, voilà. On lui disait, mais t'es une fille de la campagne en fait. Hein, et bien elle dit, ok, mais je suis une rose, voilà, je suis le lys dans la vallée. Et alors lui, il dit un truc assez marrant, comme le lys entre les ronces, ainsi mon ami entre les jeunes filles. Pourquoi c'est marrant? Parce que les ronces, c'est les dames du palais. Les ronces qui font mal, et les ronces aussi qui sont des plantes qui apparaissent après le péché d'Adam et Ève. Hein, enfin d'Adam plutôt, et de la femme, parce que Ève, ça sera après. Mais hop, voilà, un petit coup contre les dames du palais. Elle, comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes, j'ai désiré son ombre, voilà le désir, et je m'y suis assise. Son fruit est doux à mon palais, il m'a mené vers la maison du vin, l'enseigne au-dessus de moi est amour. Soutenez-moi par des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Et on retrouvera cette idée encore plus forte d'ailleurs à la fin, c'est que l'amour c'est pas simplement quelque chose de sympa. Il y a un côté douloureux, en fait, dans l'amour. Hein. Il n'y a pas que... Ouais, c'est... Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Donc, ouais, on se représente les choses, donc ça vient déjà... c'est assez intime, quand même. Et lui, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Alors, ce refrain, retenez-le, parce qu'on va l'avoir trois fois en conclusion de tableau. Ici, il a une tournure toujours ironique, parce qu'il s'adresse... Les filles de Jérusalem, donc c'est les dames du palais, et elles n'ont pas du tout envie d'éveiller l'amour, parce que vous avez bien compris, donc elles sont jalouses de cette fille qui a réussi, cette petite intrigante à sa peau brunie, qui a réussi, on ne sait pas trop comment, va-t-en savoir, donc à capter l'attention du roi. Et donc, ils ont pas, les filles du palais n'ont pas du tout envie d'éveiller l'amour. Donc, il y a quelque chose d'ironique. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, c'est que, et ça, c'est très important dans le cantique, ce n'est pas le moment d'aller, comment dire, d'aller jusqu'au bout du désir amoureux. C'est pour ça, d'ailleurs, en préparation de mariage, c'est pas mal quand on explique aux gens, ce qui n'est pas toujours très facile, que c'est mieux d'attendre le mariage. Donc, bon, ben, en fait, il faut faire avec le cantique des cantiques. Hein, parce que, alors, ce refrain, n'éveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui est en route, il y a déjà ce désir, il y a déjà des images très sensuelles, mais c'est pas encore le moment. Ça veut dire donc que la rencontre est réelle, mais elle ne va pas jusqu'à l'accomplissement, qui est évidemment dans le cadre du monde du récit, qui n'est peut-être pas le sens littéral, je le redis, c'est évidemment l'union charnelle, hein, ça on a compris. On arrive au deuxième tableau. Le roi va chercher Shulamit chez sa mère. Alors c'est de nouveau la femme qui parle en premier. Alors ça c'est très... Il y a même une chanson, un chant, on l'avait appris, hein, « Koldodi, 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 Inezeba ». Donc c'est ça en fait. Hein, donc alors, « Voix de mon bien-aimé, Koldodi, Inezeba », donc ça c'est de l'hébreu, hein, oui, pardon. C'est lui, il vient. « La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. » Il parle, mon bien-aimé, il me dit. Moi, ça me fait penser ce truc-là. Je trouve ça hyper beau, en fait. C'est très, très, très beau. C'est très poétique. Je voudrais vous le lire en hébreu, ce truc. Mais ça me fait penser, c'est dans Tom Bombadil, là, dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un peu quelque chose de ça, hein, les bottes de sept lieues. Mais c'est dire le désir amoureux, quoi. Le gars qui va, alors, il a réussi à esquiver. Il avait une rencontre avec l'ambassadeur de je sais pas quoi. Il avait une rencontre avec les généraux. Chalon, c'est pas marrant, on est trop, hein. Il y a des trucs. Enfin, il n'a qu'un désir, c'est d'aller voir Shulamit, et donc il bondit sur les collines, il bondit sur les montagnes. Et alors, il arrive devant la maison de Shulamit, et donc il va lui conter fleurette, enfin, c'est avec beaucoup, voilà, c'est quand même... « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens... » Alors ça aussi, il y a un chant, « Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin. » Donc c'est ça, alors. Donc, alors peut-être qu'il chantait comme ça, non mais c'est peut-être Roméo et Juliette, hein, donc il était avec sa guitare, donc « Viens, ma toute belle. » Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé. » Non mais c'est pour ça, il faut le représenter, ce truc. Alors, elle est dans la maison, hein, elle est dans la maison, mais l'amour entend, l'amour perçoit, donc elle sait que c'est lui qui vient, c'est pas le laitier qui vient livrer le truc, quoi. Elle reconnaît les pas de son... Et elle écoute, elle se met derrière. Il y a le mur entre les deux, mais elle écoute la voix du bien-aimé. L'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Oui, elle s'était comparée à une fleur. Le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix est douce et ton visage charmant. Et alors là, il y a la mère qui arrive. Alors, c'est plus les dames du palais, mais alors là, c'est maman. Alors, elle est gentille, hein, maman, mais enfin, elle n'est pas top, top, top fana des gars qui viennent compter fleurettes à sa fille, ce truc. Alors, elle dit, attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alors, est-ce qu'elle a capté que Fifi, elle avait capté, pardon, elle avait conquis le roi? Est-ce que, mais là, visiblement, c'est voilà, la vigne, c'est Shulamit, elle est en fleurs, c'est-à-dire, ben voilà, c'est, elle est grande maintenant, hein, elle est en âge de se marier, et donc, ben, enfin, il faudrait pas que ça arrive trop tôt, qu'il y ait des malheurs trop tôt, et il faudrait pas qu'il y ait des renards qui viennent pour démolir la vigne. Donc le renard, c'est Salomon, là, en fait, à qui elle parle, peut-être bien au frère, d'ailleurs, de Shulamit, dont on verra à la fin que c'est... Alors, il n'y a pas de père, en fait, dans ce truc, donc apparemment, donc, papa est mort, mais il y a maman, il y a les frangins, et les frangins, ils n'aiment pas trop beaucoup que... Enfin, ils surveillent la sœur, quand même. Hein. Alors, donc, on se dit, oula, ça va être quoi? Alors, c'est le roi, quand même, donc il pourrait, mais vous voyez, il va dire, c'est le roi, mais cette maison m'appartient, et puis d'ailleurs, vous, voilà, vous allez en prison, puis... Non, il va respecter, hein. Elle, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui, qui mène paître ses brebis parmi les lys. Avant le souffle du jour et la fuite des ombres, toi retourne. Sois pareil à la gazelle, mon bien-aimé, au fond de la biche sur les montagnes escarpées. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Ça vous rappelle quoi, ça? c'est bien, c'est la formule de l'alliance. Bravo, bravo, bravo. Je pensais pas. C'est très, très bien. Ça, c'est vraiment. Alors là, quand on a les... c'est la formule de l'alliance. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Voilà, c'est un des signes qui nous montre que ce cantique nous appelle à des interprétations où c'est pas des chansons à boire. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Mais alors, c'est intéressant parce que c'est précisément au moment, à un moment donc où il y a un obstacle, que elle est capable de d'avoir une espèce d'acte de foi, de dire mais de toute manière je lui appartiens et il m'appartient. Et donc elle peut le renvoyer en disant mais bon pour le moment ça va pas être possible. Mais donc tu peux retourne à Jérusalem parce que là c'est mal barré avec maman donc on va pouvoir. Mais c'est pas oui ça ne fait que renforcer le lien qu'il y a entre les deux puisqu'elle est capable d'avoir cette formule d'appartenance mutuelle qui est quasiment voilà c'est, on pourrait dire dans les ce serait quasiment le mariage en fait hein, dans les mots. Alors bon ça n'empêche pas que quand le soir vient il y a des regrets hein, donc on se met à repenser à la journée on se dit mais c'est quand même dommage que maman et les frangins étaient là. Quoi. Donc, sur mon lit, alors c'est le cantique de la nuit obscure qu'on retrouvera chez Jean de la Croix. Hein. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Donc elle est sur son lit, elle se rappelle et elle rêve ou elle regrette. Enfin bon, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai. Je tournerai dans la ville, par les rues et les places, je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. En Jérusalem, il y a une police, il y a des gardes. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas, que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Et ça montre que elle en veut pas à sa mère... puisque, en fait, elle veut, si elle veut le conduire dans sa chambre, alors c'est un peu comme je disais, elle veut pas tellement habiter au palais, en fait, ça la fait pas trop rêver, le palais de Jérusalem, pourtant ça va être plus confortable que la baraque à toute nulle qu'elle devait avoir là, mais elle disait, bon, on va aller à Enguedi, mais je pense aussi qu'elle veut pas, elle veut connaître cette expérience d'être mère, donc épouse et mère, à l'endroit où sa mère elle-même l'a connue. Donc elle veut le faire entrer dans la chambre de celle qui m'a conçue. Et lui, alors ça c'est la fin, le refrain qui conclut le deuxième tableau, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Dans ce tableau, il y a les filles de Jérusalem ne jouent pas de rôle, mais donc non, voilà, c'est le rôle du refrain qui nous dit « Bon, ben, le tableau prend fin, et pareil, la rencontre n'a pas eu lieu encore. C'était pas le moment. » Alors, ça va être le moment avec le troisième tableau. C'est bien, je suis pas en retard, là. C'est les noces du roi et de Shulamit. Alors là, si je devais faire, je pourrais pas faire une pièce de théâtre, parce qu'il y aurait trop d'accessoires. Là, il faudrait vraiment le tout gros truc hollywoodien. Là, on y va, mais alors, là, ça, là, c'est les films, justement, les films toujours pareils, hein, du Seigneur des Anneaux, le truc. Hein. Faut imaginer, c'est le gros, gros, gros cortège. Il y a le chœur qui apparaît, donc qui commente, mais qui n'est pas impliqué personnellement dans l'action. C'est pas comme les dames du palais. Alors ça commence de très très loin. Qu'est-ce là qui monte du désert comme une colonne de fumée odorante d'encens et de myrrhe, de tous les aromates des marchands. La colonne de fumée, ça rappelle quoi ? Voilà, bravo. Et l'encens, parce que c'est l'encens qu'on met au temple, qui fait de la fumée, et qui est là pour rappeler la sortie d'Égypte. Il y a plein d'allusions au temple aussi, bon, je ne veux pas ça oublier. Alors, c'est quoi qui monte ? C'est la litière de Salomon, tout autour, 60 braves d'entre les braves d'Israël. Donc il avance sa garde d'élite, tous armés de glaives, entraînés à la guerre, chacun son épée à la hanche contre les terreurs de la nuit. On dit, voilà, il va partir en guerre. Eh bien, pas du tout. Le palanquin fait pour le roi Salomon est en bois du Liban, ce qui se fait de mieux à l'époque. Il a fait les colonnes d'argent, le toit en or, le siège de pourpre. L'intérieur fut tapissé avec amour, ouais beauf, par les filles de Jérusalem. Je pense qu'elle était hyper vénère en fait. Mesdames, vous allez me faire un peu de broderie là, hein, comme vous savez faire là, pour puis avec les initiales de Shulamit, hein, tant qu'à faire. Alors, le cœur, donc, qui est peut-être pas au courant de ces sombres jalousies féminines, sortez et regardez, fille de Sion, le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère le couronna au jour de ses noces. Oui, parce que Salomon, il y a eu des intrigues de palais au moment où David est mort, enfin, allait mourir. Il a eu un frère, Adonias, qui a voulu faire un coup d'État, et du coup, c'est Bethsabée qui allait voir, avec beaucoup d'astuces et de sagesse, David, et s'est débrouillé pour que David couronne roi Salomon encore de son vivant. Et donc, alors c'est, la mère, c'est un rappel que Salomon doit sa royauté à sa mère. Rappelez-vous ça, hein, s'il vous plaît. On inscrit ça dans sa mémoire. Salomon doit sa royauté à sa mère. Alors, lui. Alors, les filles de Sion regardent, donc bon, font compte mauvaise fortune, bon cœur. Et puis, on arrive au premier chant d'amour du roi. Ça, faut pas rater ça. C'est aussi quelque chose de structurant dans le cantique. C'est ce qu'on appelle un wasf. Alors, le wasf, c'est un mot arabe. Mais ça désigne quelque chose de très précis, ce qui existe encore, je crois, dans la culture syrienne aujourd'hui. C'est un chant ou un poème, mais sans doute un chant, un poème accompagné à la musique, en tout cas, sans doute chanté, que le fiancé doit chanter quand le jour des noces, sa fiancée, enfin, qui devient son épouse, danse devant lui. Et il est un peu mis à l'épreuve, en fait. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est très beau tous ces trucs-là, il y a des robes, des bijoux, des machins, il y a des... ça étincelle de tous les côtés. Il y a les types qui sont en train de jouer là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ti-ti-ti, enfin bon, le... la musique, quoi. Et lui, il doit montrer que la beauté de la femme, traversant l'homme, renaît dans la forme poétique. Et les deux sont, d'une certaine manière, les convives doivent être charmés à la fois par la beauté de sa femme et par le fait que cette beauté vient à la parole dans l'époux. Alors c'est ce qu'on appelle un wasf. Donc messieurs, entraînez-vous. J'ai fait pas mal de mariages tout à l'heure. J'ai encore jamais vu ça, mais ça serait assez sympa. J'aimerais bien voir un wasf en fait. Non, et pour de vrai, mais vraiment composé. Mais non, mais sérieux, je pense que ça serait vachement beau. Bon, alors c'est là où on dit, en fait, c'est sûr, c'est, alors, il y a plusieurs wasps dans le cantique, et c'est là où on dit que les exégètes allemands disent, mais en fait, ça montre bien, c'est que du folklore, voilà, c'est des chants érotiques de Proche-Orient, des trucs comme ça, mais bien sûr qu'il y a sûrement des modèles, bien sûr qu'il y a des comparaisons qui doivent être classiques, mais c'est repris dans une intrigue qui est quand même beaucoup plus compliqué que simplement de dire aujourd'hui c'est la fête au village parce qu'il y a un mariage. Ah que tu es belle mon ami, ah que tu es belle, tes yeux sont des colombes au travers de ton voile. Oui, c'est le Proche-Orient, hein. Il y a quand même un tâche. Ah ben non, mais c'est le... Oui, alors c'est important parce qu'à un moment donné le voile on va lui retirer, et alors quand on lui retire le voile c'est vraiment l'indignité pour une femme, hein. Voire même ça serait presque la prostitution, hein. Donc elle a un voile, hein. Ta chevelure, un troupeau de chèvres. Alors, il faudra actuellement. S'il y a un talent qui fait actualiser quand même le truc, hein. T'as vraiment, tes jeux, on dirait vraiment des chèvres en fait. Ouais, non, vraiment. Non. Un troupeau de chèvres tondues qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Comme un ruban d'écarlate, tes lèvres. Ça marche mieux, ça, je trouve. Tes paroles, une harmonie. Comme une moitié de grenade, alors parce qu'elle a les joues rouges, alors peut-être le maquillage, peut-être l'émotion, peut-être aussi une allusion délicate au fait qu'elle a un teint hâlé, mais du coup ça a mis une moitié de grenade, hein, c'est très beau. Donc on a vu des grenades en Israël cet été. Qui était en Israël cet été avec moi là? Levez bien haut la main. Bah, ah bah voilà. Quand même, c'était beau, non? Voilà. Et ça en parle en fait, on verra, parce qu'après il décrit sa femme comme la Terre Sainte, c'est trop beau. Alors, comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. Ton cou, la tour de David. Ton cou, on dirait la tour Montparnasse, en fait. Il faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non, s'il vous plaît. Il faut trouver les autres comparaisons plus parlantes. Non, mais on a changé. J'ai lu un commentaire, d'ailleurs, de ce truc. C'est assez marrant, parce qu'à un moment donné, il semble qu'elle était plutôt... Il y a un candidat, du moins, finalement, elle devait pas être maigrichonne, alors, et qu'elle avait un long nez aussi. Alors, il dit sans doute que les canons de beauté n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ah, que tu es belle, que tu es belle. Bah, c'est notre culture aussi, hein, ça. Bon, mais voilà. Mais la tour de David, harmonieusement élevée, 1000 boucliers sont suspendus. Rappelez-vous des boucliers, toutes les armes des braves. Tes deux seins, deux fangs, jumeaux d'une gazelle, ils pâturent parmi les lys. Avant le, alors il s'arrête là, hein, il descend pas plus bas. Avant le souffle du jour et la fuite des ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, nulle tache en toi. Hein, cette femme qui était trop bronzée, nulle tache en toi. Alors, les comparaisons, ça je vous donne un truc, rien que ça, je trouve qu'on pourrait en faire une thèse de phénoménologie. C'est jamais des comparaisons sur la forme extérieure. C'est des comparaisons sur la sensation éprouvée. C'est vachement plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de dire, alors attends, est-ce que ça a la forme du truc? Non, c'est vraiment la sensation éprouvée. C'est ça qui fait de la belle poésie. Alors, après ça, petite ellipse, et après le wasp, il y a ce qui va concrétiser, c'est vraiment le, on va dire, bah, c'est à la fois un sommet et pas un sommet du cantique, c'est ça qui est très curieux en fait. Hein. C'est vraiment la nuit de noces, la nuit d'amour. Donc ils sont dans leur chambre, et alors c'est donc le roi continue donc de parler à Shulamit. Avec moi du Liban, ô fiancé, avec moi du Liban tu viendras. Tu regarderas du haut de l'Amana, des hauteurs du Sanir et de l'Hermon, donc cette montagne qui est au nord-est, près du Liban justement, depuis les repères des lions, depuis les montagnes des léopards. Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée. Tu as blessé mon cœur, d'un seul de tes regards, d'un seul anneau de ton collier. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'amour c'est pas que agréable. Oui, tu as blessé mon cœur, il y a quelque chose de douloureux. Et alors là, il y a quelque chose de très étonnant, c'est quand il dit ma sœur fiancée. Parce que c'est vraiment le moment, c'est la nuit de noces, hein, là, comme disait. Ils vont vraiment conclure. Et c'est à ce moment-là que dans les mots, il y a une espèce de distance. Et vraiment de, comment dire, de presque de réserve, de pudeur, mais vraiment dans le sens le plus métaphysique du mot. Vous voyez, c'est pas du tout en français, il y a un mot, alors, bon, on dit quand un, pour désigner l'acte conjugal, ouais, il y a, enfin, l'homme qui possède sa femme, alors c'est pas très beau, et ça dit beaucoup de choses du péché, en fait. Là, c'est tout le contraire, en fait, hein, c'est une forme de dépossession, je trouve, de la part du roi. Hein. Ma sœur fiancée, c'est comme ça, alors qu'il vient, la noce est finie, c'est la nuit de noces. Quelles sont bonnes tes amours, meilleures que le vin, l'odeur de tes parfums, une exquise senteur, un miel pur coule de tes lèvres. Ouais, il est en train de boire, il est en train de l'embrasser. Ouais, c'est comme du miel. Alors, le miel pur coule de tes lèvres, au fiancé, le miel et le lait. Pourquoi le miel et le lait? C'est la terre promise, voilà. Sous ta langue, l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Jardin fermé, ma sœur fiancée, fontaine close, source scellée. Pourquoi ça? Ben, c'est justement le fait que le jardin est clos. Parce que cette femme s'est réservée pour son mari. C'est, je vous dis, faut, en préparation au mariage, c'est pas mal ces textes-là. Hein, ça donne le bon climat pour comprendre qu'est-ce que le bon Dieu fait dans le mariage. Tes formes élancées, un paradis de grenades aux fruits délicieux, le nard et le cypre, le nard et le safran, cannelle, cinnamone et tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, tous les plus fins arômes. Il y a un exégète qui dit, en fait, c'est très bizarre parce que tous les plantes qu'il dit là sont incompatibles les unes avec les autres. Elles habitent pas dans les mêmes trucs, c'est pas les mêmes machins. Donc, ce qu'à part, je dis que c'est quand même pas, c'est pas ordinaire, c'est pas juste des chants d'amour. Bien, c'est pas la meilleure compile des chants de Salomon en fait. C'est pas les trois plus grands hits de Salomon. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans toutes les bizarreries du récit, enfin du poème que je peux pas vous signaler parce que là je suis en train de prendre du retard. Ô source des jardins, puits d'eau vive qui ruisselle du Liban. Elle, éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud. Souffle sur mon jardin et ses arômes s'exhaleront. Qu'il entre dans mon jardin, mon bien-aimé, qu'il en mange les fruits délicieux. Donc là, bon, la métaphore est presque explicite. Alors, au matin, je suis entré dans mon. Je suis, donc c'est lui qui prend la parole, je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée. Oui. Avant l'amour et après l'amour, la même réserve de langage. Hein, ça reste, il y a quand même quelque chose qui. Justement de non-possession en fait. Peut-être que c'est même encore plus fort après qu'avant d'ailleurs. J'ai recueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon pain et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Et alors là, évidemment, on n'a pas le refrain ne réveillez pas l'amour, parce que là, pour le coup, ça s'est passé. Et le cœur dit mangez, amis, buvez, bien-aimés, enivrez-vous. Alors ça pourrait s'arrêter là. On me dira, ah, bah c'est. Voilà, c'est. Alors si ça s'arrêtait là, on en ferait justement une exégèse. Moralisante, c'est un peu ce que font nos frères protestants dans les commentaires que j'ai vus. Ils disent, ben, en fait, ce cantique nous apprend à deux finalités. Je dis pas qu'elles sont absentes. Hein. Il met en valeur le mariage, les corps, le corps, le plaisir sexuel, enfin toutes ces choses-là sont pas mauvaises. Dieu les a voulues. Donc c'est un antidote à toutes ces pensées qui traînent toujours un peu dans la tête des hommes religieux, hein, la gnose, le dualisme, l'ancratisme, tous ces trucs-là. Et deuxième enseignement, il dit bah quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, quoi. C'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, mais s'il n'y a que ça, c'est comme une interprétation moralisante un peu faible et qui, à mon avis, ne tient pas compte de ce qui va se passer après. Et en fait, le cantique, il monte de plus en plus en puissance. Donc, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas happy end, la nuit d'amour. Voilà, allez-y les gars, enivrez-vous. Vous avez patienté, mais maintenant c'est bon. Ça ne s'arrête pas là. Quatrième tableau, alors là ça devient bizarre, hein. Ça faut reconnaître que ce tableau est bizarre, il y a une séparation, mais c'est très difficile de qualifier la cause de la séparation, c'est très difficile. Alors, elle, alors ça c'est une phrase hyper connue, « Je dors mais mon cœur veille ». C'est la première phrase du cantique que j'ai connue, parce que quand j'étais petit j'étais abonné à Spirou, et il y avait un numéro en haut qui racontait comment Spirou s'était interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le dernier numéro de Spirou, c'était Spirou, oui, le petit groom, hein. Et donc il dormait dans un champ, et au-dessus, c'est marqué « Je dors, mais mon cœur veille ». Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup aujourd'hui de revues de distraction, quand même, Spirou, hein, qui avait une citation du Cantique. C'est marrant, hein, comme... Vous connaissez cette phrase « Je dors, mais mon cœur veille ». Alors, cette phrase, à mon avis, il ne faut pas la prendre en bonne part. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe. Donc la fille, elle dort, elle dit bah, bon, je dors, mais je dors pas vraiment, en fait, mon cœur veille. Ah bon. Elle entend la voix du bien-aimé qui frappe. Alors lui, donc, il est derrière, et c'est inversé par rapport à quand elle était chez sa mère. Mais là, visiblement, ils sont au palais du roi. C'est devenu la reine, hein, la fille. Hein. C'est quand même une success story, hein, pour Bollywood, ça serait. Alors, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure, car ma tête est humide de rosée, mes boucles dégouttent de la nuit. Donc c'est tard, c'est la nuit en fait déjà. Il vient de nuit. Elle, j'ai ôté ma tunique, devrais-je la remettre? J'ai lavé mes pieds, devrais-je les salir? Et c'est ça la cause de la séparation. C'est... Voilà, quand il est quand même très 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 délicat, le roi. Hein. Ça a empêché la rencontre, en fait. C'est la nuit. Alors, je dors, mais mon cœur veille. Moi, je pense que il faut pas le dire. Justement, elle s'illusionne, en fait. Elle croit qu'elle peut veiller en dormant. Je pense que c'est ça son problème. Alors qu'en fait, il ne faut pas se raconter d'histoire. On est en temps d'avant. Hein. Tous les trucs eschatologiques, le bon Dieu va revenir et le grand lapin bleu qui va dévorer les planètes et tout ça. Bien sûr, je veille, mais je dors en même temps. Je dors, mais mon cœur veille. Je dors, mais mon cœur fait oraison. Je dors, mais je... Enfin, en vrai, il faut voir les trucs, quoi. Tu dors ou tu fais oraison? Tu dors ou tu veilles? Alors, je pense que il y a une espèce de tiédeur, mais c'est imperceptible, en fait. C'est un fil de soi qui s'est installé. Et ça va rendre impossible, ça va mortellement blesser le roi. Alors, mais il rend très, très, très susceptible, ce roi. Salomon, je sais pas. Alors, j'espère qu'avec ses 999 autres concubines, parce qu'il avait quand même... 700 concubines et 300 épouses de rang royal, donc il était moins susceptible. C'est délirant que ce truc soit attribué à Salomon, d'ailleurs. Non, mais c'est délirant, en fait. Je vous dis, ça fait partie des trucs bizarres, d'ailleurs. Alors, mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte. Mes entrailles ont frémi. C'était lui. Alors là, elle se réveille. Elle se précipite. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Alors là, elle dit, tant pis, je mets même pas les patins, tant pis s'il faut que... Si j'ai dégueulassé mes pieds, j'avais fait mes ongles, j'avais dit tant pis, allez hop, j'y vais, je vais l'ouvrir. Allez. L'amour reparle, mais en fait c'est trop tard. Je me suis levé, les mains ruisselantes de myrrhe, parce que son bien-aimé était ruisselant de myrrhe, et donc il a laissé dans la fermeture la myrrhe, mais c'est tout ce qu'elle récupère en fait. Elle récupère juste le parfum qui dégouline sur la porte, il est parti. Mes doigts répandaient cette myrrhe sur la barre du verrou, j'ai ouvert à mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Quand il parlait, je rendais l'âme, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Et ouais, alors là, on est passé... troisième tableau, c'était Bollywood, et là, c'est un film d'horreur, en fait. Hein, et ça va vraiment devenir un film d'horreur. Hein. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Donc elle part, elle quitte le palais, et elle cherche le bien-aimé. Il est passé où ? Il est passé où ? Et elle rencontre les gardes, eux qui tournent dans la vide, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont arraché mon voile, les gardes des remparts. Pourquoi ? Alors ça, ça fait partie des énigmes. C'est quand même les employés du roi. Hein. Bon, c'est la nuit, est-ce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était la reine, truc, mais enfin bon, quelqu'un qui cherche quelqu'un, on peut répondre non, mais je ne l'ai pas vu. Non, mais on peut être poli quand même. Alors, ils l'ont cogné et ils ont même enlevé son voile. Alors, ça suggère presque un viol, en fait, ce truc. Alors, c'est très, très énigmatique. Hein. À la fois, la cause qui nous paraît, mais vraiment, ce Salomon est d'une susceptibilité, mais maladive, quoi. Enfin, et par ailleurs, le cauchemar dans lequel tombe la fille, on dit, mais c'est... Vous voyez, on quitte dans le monde du récit, ça devient fantastique. Fantastique au sens, c'est plus normal, quoi. Enfin... Alors, je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour ? Donc, elle retrouve cette maladie, parce qu'elle souffre trop, en fait. Alors, les dames du palais, elles vont jouer un rôle. Alors, il n'y a que à la fin que peut-être elles vont être gentilles, mais là, elles sont méchantes, mais d'une autre manière. Maintenant qu'elles voient que ça tourne vinaigre, elles se disent, bon, ben, la pauvre, elle s'est fait larguer par son Jules. Et en fait, elles vont essayer de salir le Jules auprès de Shulamit. De dire, ah ben voilà, il t'a largué, mais enfin, tu sais, ils sont tous comme ça, et surtout lui, je peux te dire que voilà, il compte fleurette deux jours, puis après, pouf, il te croise, il a oublié ton prénom, quoi. Il dit, tiens, Toshiba, tu vas porter mes pantoufles, donc... Qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô belle entre les femmes ? Qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre que tu nous adjures ainsi ? Et alors là, ça, c'est hyper beau, hyper classe. On a le chant d'amour de Shulamit. Et ça, c'est unique. Parce que normalement, jamais c'est la femme qui fait le wasf. C'est toujours l'homme. Je crois que dans l'Antiquité, j'ai lu ça, que c'est le seul exemple d'un wasf qui est mis sur les lèvres d'une femme. Alors elle va chanter l'absent. Parce que normalement, il faudrait qu'il danse, quoi. Mais. Enfin bon, ça se fait pas, de toute façon. C'est... Mais il est pas là. Alors, du coup, elle dit bon, ben, puisqu'il est pas là, et puisque les autres gourdes, là, elles me demandent qu'est-ce qu'il a de plus, si elles ont toujours pas compris ce qu'il a de plus, autrement dit, qu'est-ce que le dieu d'Israël a de plus que les idoles des païens, en fait. Hein, c'est... Moi, je vais vous chanter, mon dieu, vous allez comprendre ce qu'il a de plus. Et alors, elle chante mon bien-aimé est clair et vermeil. On le distingue entre 10 000. Clair, ici, c'est en hébreu, c'est un mot hyper rare qui apparaît dans Isaïe pour qualifier Dieu. Sa tête est d'or, d'un or pur, ses boucles d'un noir de corbeau ondulent. Ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau qui baignent dans le lait et reposent tranquilles. Ses joues, un parterre d'arômes, des corbeilles de senteurs. Ses lèvres, des lys, un ruissellement de myrrhe. Ses bras, des torsades... Oh, c'est déjà 29 ? Ouh là là. Des torsades d'or serties de topazes. Son ventre, un bloc d'ivoire couvert de saphir. Ses jambes, des colonnes de marbre posées sur des socles d'or pur. Son aspect est celui du Liban, comme le cèdre sans rival. Sa bouche est pure délice, tout en lui est désirable. Tel est mon bien-aimé, fille de Jérusalem. Et alors là, je pense qu'elle convertit les dames du palais. C'est la première fois qu'on a que ce que disent les dames du palais n'est pas en mauvaise part. Moi, je trouve que c'est très beau, la conversion des dames du palais, en fait. Hein. Où est parti ton bien-aimé, ô belle entre les femmes ? Où s'en est allé ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi ? Et à ce moment-là, où les femmes, les dames du palais sont converties, elles retrouvent le bien-aimé. Mon bien-aimé dans son jardin, dans les parterres, elle le sait en fait, elle est toujours à Jérusalem, elle dit « Je sais en fait où je vais le trouver. Il est revenu là où ce que il m'a cherché chez ma mère, dans les jardins. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour mener ses brebis paître au jardin et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé est à moi. » De nouveau la formule d'alliance, après la rupture. Lui qui mène paître ses brebis parmi les lys. Autrement dit, elle a compris qu'il est parti pour, non pas en sanction, mais pour accomplir la prière qu'elle avait faite, de dire « mais j'aimerais bien quand on sera mariés, qu'on n'habite pas à Jérusalem, mais qu'on habite dans un jardin. » Je saute le cinquième tableau, c'est un peu dommage, mais j'ai pas le temps là, c'est 30 pétards. Comment j'ai pris du retard alors que j'étais hyper bien là ? Bon, c'est les retrouvailles, mais enfin ça reste quand même un peu... C'est les retrouvailles, mais c'est les retrouvailles qui ne vont pas se conclure par une rencontre physique. Il n'y en a qu'une, en fait. Hein. C'est les noces, c'est la nuit de noces. Hein. Donc, il y a le deuxième chant d'amour du roi. Qui est... Alors, en gros, les wasps, ici, sont plus sensuels. Mais c'est plus sensuel dans la parole, mais il n'y a pas la rencontre physique. Et les dames du palais, c'est là où on voit qu'elles sont converties, c'est que c'est elles qui vont faire le chant, le was, le plus expressif de la beauté, enfin oui, enfin, le plus sensuel de Shulamit, et qui va, et Shlomo va embrayer sur le chant des dames du palais. Elle communique le wasf. Une fois qu'elles ont, elle commence le wasf, et c'est Salomon qui le termine. Alors, elle commence par dire « Qui donc est celle qui surgit, semblable à l'aurore, belle autant que la lune, brillante comme le soleil, terrible comme des bataillons ?» Je voudrais vous parler pendant des heures de ce verset, parce que sa beauté est devenue terrible, en fait. La beauté de Shulamit, qui est passée quand même par un truc cauchemardesque, hein. Sa beauté est devenue terrible. Alors là encore, je trouve qu'il y a des trucs chez Tolkien qui fait sentir ça. La beauté des elfes est quelque chose de terrible. Il y a quelque chose de militaire, en fait, dans la beauté de cette femme. Bon, je passe sur le tronc d'amour. Je vous relève juste un truc. Il n'y a que le wasp des dames du palais qui décrit ce qui est en dessous du torse chez Shulamit. C'est là où on voit qu'une étape a été franchie, quand même, hein. Alors, bon. Et ça se termine. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ça se retermine, ce truc, par le refrain de non-rencontre physique. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Comme si la rencontre physique, l'union charnelle, en fait, n'était pas le point d'achèvement de l'amour de Salomon et de Shulamit. C'est assez curieux, quand même, hein. Et puis, alors, l'épilogue. Alors là, l'épilogue, bon, je vous fais en 2 minutes, mais je savais que j'aurais pas dû faire ça. Là, c'est du... Ça cogne dur, hein. En fait, c'est Saint Jean, c'est le véritable amour, là. C'est Dieu est amour. Alors, ça commence par le cœur. Toujours le. Ça, c'est ce qu'on a déjà. Qui donc est celle-ci? On avait ça pour le cortège au loin. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Alors là, si vous êtes. Là, je pense que c'est un test, en fait. C'est-à-dire que si on est à ce verset. Alors, on change complètement de truc, hein, on n'est plus dans les tableaux. Si vous n'avez pas compris que c'est Israël qui monte du désert appuyé sur son bien-aimé, qui est son Dieu, il faut faire autre chose. Vous voyez, c'est un test. C'est là où je vous dis, il y a un grand enjeu herméneutique dans cet épilogue. Il y a un grand enjeu herméneutique. Alors là, ce qu'elle dit, pétard, c'est trop bien. Donc, sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfanté, là, elle t'a enfanté et mise au monde. Donc, on a compris que c'était la femme de Shlomo, Shulamit, qui était servile, qui a été libérée, qui est passée par une union, mais ça n'a pas marché, on a cru nous avoir abandonné, on a converti les dames du palais, puis il y a eu des retrouvailles encore plus sensuelles dans la parole, mais sans rencontre physique. Et elle dit au roi, je t'éveille là où ta mère t'a enfanté, c'est-à-dire que là où elle t'a enfanté et mise au monde. Autrement dit, maintenant, c'est moi qui te donne la vie. En fait, elle est passée du statut d'épouse à mère. Et on se rappelle que la mère de Salomon, c'est celle qui l'a fait roi. Ensuite, encore une phrase renversante. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Il y a encore un chant qui fait ça, mais vous ne devez pas connaître. Mon Dieu, pose-moi comme un sceau sur ton cœur, un sceau sur ton bras que nul ne verra. Ça se met bien en chanson, hein, le cantique. Hein, pourquoi c'est renversant? Parce que le sceau, c'est la marque de possession quand on est dédié à un sanctuaire ou à un dieu. Donc quand j'appartiens à un dieu, j'ai le sceau du dieu sur moi. C'est un tatouage, en fait, hein, c'est un truc indélébile. C'est pour dire qu'on est consacré. C'est pour ça que les chrétiens ne voulaient pas qu'on ait des tatouages. C'est une pratique païenne. J'appartiens à Jupiter, à Mars, à Athéna, à qui vous voulez. Alors, ça veut dire qu'elle dit au roi, pose-moi comme un sceau sur ton cœur. Ça veut dire que tu m'appartiens comme un homme qui est consacré à un dieu ou à une déesse. Comme un sceau sur ton bras. Donc, c'est Israël qui est en train de dire ça à Dieu, quand même. Hein. C'est-à-dire que le rapport est en train de se renverser. Ça veut dire que l'amour, enfin, c'est toutes les relations qui sont logiques dans l'ordre de la créature au créateur sont en train de se renverser de l'ordre du créateur à la créature. Je deviens ta mère, c'est moi qui donne la vie, je te couronne, c'est moi ton Dieu. Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaise divine. C'est le seul endroit où il y a Elohim. Alors attention, bah souvent on traduit mal ce truc, on dit l'amour est plus fort que la mort, alors là, Pierre en met les violons, donc c'est la mauvaise série de trucs, c'est pas du tout ça. Hein. c'est pas du tout l'amour est plus fort que la mort, ça ira plus loin que ça, donc c'est pas les feux de l'amour. Hein. Ça veut dire que l'amour, la mort, c'est ce qui est, c'est la chose la plus définitive, la plus inexorable et la plus violente en un sens à laquelle l'homme peut se confronter. Et vous voyez, il y a un parallélisme synonymique, la passion est implacable comme le shéol. Il faut bien comprendre comme on dit deux fois la même chose. Donc ça veut dire que là, le côté douloureux de l'amour, celui dont je vous parlais tout à l'heure, en disant, c'est, l'amour c'est pas que sympa en fait, il y a un côté qui fait mal, là on dit mais c'est vrai, c'est même devenu ça, la propriété essentielle de l'amour, c'est devenu la mort en fait, c'est vrai, c'est puissant comme la mort. Bon, là vous devez commencer à comprendre pourquoi je vous parle du quantique au moment de l'avant quand même, hein. J'espère quand même, hein. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour? Il ne recueillerait que mépris. C'est une phrase totalement anticulturelle, parce qu'à l'époque, et c'était pas plus mal, comme c'est une autre manière de faire, mais c'est toujours une alliance entre familles. C'est un clan, en fait. C'est entre clan et clan, le mariage. C'est jamais que l'intéressé avec l'intéressé. C'est toujours. Et donc, il y a aussi une partie financière, même, c'est normal. Donc, tu prends ma fille, bon, mais du coup, tu vas quand même bien me donner deux dromadaires, parce que, quand même, hein. Oui, d'accord, peut-être un seul dromadaire, parce qu'elle n'a pas bon caractère, ça, d'accord, mais enfin, un dromadaire et une chèvre. Alors, oui, on parlemente. Mais en fait, tout ça est très important culturellement, parce que plus ça dure longtemps, et plus la femme, elle est belle et elle a du prix. C'est pour ça que dans la. Vous vous souvenez là dans la Saint-Luc, là, la parabole où les machins, là, les jeunes filles vierges et tout ça, ça dure très longtemps. Toutes les filles s'endorment parce qu'en fait, elles n'avaient pas percuté que la fiancée était tellement belle que les négociations, ça s'enlise complètement, quoi, parce qu'elle est tellement belle que ça dure des heures, en fait. Alors, elle, donc c'est complètement contre-culturel. Elle dit, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a quelque chose, le véritable amour est d'une gratuité totale. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment gratuit, en fait? C'est quoi les. Qu'est-ce qui peut être totalement gratuit? Sinon le salut. Alors c'est là que les frères arrivent. Alors les frères, ils sont sympas. C'est pas des mauvais bougres. Mais alors ils regardent passer les trains en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont rien compris à ce qui s'est passé. Donc eux, ils restent exactement dans la vision classique de l'amour. Alors ils disent, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Donc c'est là où on comprend que. C'est la vision, en fait, une certaine compréhension du judaïsme qui est critiquée par ça. Et donc, c'était la vision, c'est ce qu'il y avait dans l'amour, ça s'achète, quoi. Il y a vraiment le chameau, la chèvre. Alors, donc ça, c'est une entité, enfin, c'est dans le passé, quoi. C'est bon, donc là, la fille est plus nubile, elle n'est pas mariée, c'est une petite fille encore. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où on leur parlera d'elle? Parce qu'elle a l'air d'être quand même plutôt chouette. On va parler d'elle, oula, c'est chouette, mais en même temps, il y a du fric à se faire. Enfin, il y a une bonne affaire, non, mais c'est ça aussi. On peut faire un mariage avantageux, surtout si c'est une famille de conditions modestes, mais il ne faudrait pas que ça nous pète entre les mains, cette histoire-là. C'est aussi dangereux, en fait, une sœur qui est trop belle. Ça peut être une promesse d'un bon contrat, mais ça peut être dangereux. Enfin, il faut faire gaffe. Sera-t-elle un rempart? Nous lui bâtirons un créneau d'argent. Sera-t-elle une porte? Nous la mirons d'une barre de cèdre. Donc, sera-t-elle un rempart? Si elle sait se préserver, on va lui en mettre une couche, on va se mettre devant les gros bras et en disant « Non, tu sors pas ma petite sœur, pas question. » Et si c'est une porte, c'est-à-dire en gros aussi, il se trouve qu'elle a un caractère plutôt volage, disons, ah ben là, on va mettre les verrous. Donc, pas question que, alors qu'il y a une affaire peut-être profitable qui s'annonce avec cette petite sœur bien jolie, pas question qu'elle se fasse engrosser hors mariage par un paysan du coin, quoi. Il y a un coup à faire, on ne va pas rater cette affaire. Mais c'est ça, les frères. Alors, dans le contexte de l'époque, c'est eux qui ont un comportement compréhensible, en fait, hein. Tout le reste est très bizarre, en fait, dans le quantique. Et alors, la réponse de elle, c'est encore absolument extraordinaire, mais pétard, mais qu'est-ce que c'est? Je suis un rempart. C'est bon, on ne va pas avoir besoin de mettre le verrou. Mes seins sont des tours. Donc là, alors c'est là où vraiment les frères, ils voient pas. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire précisément ce qui me rend attractive, ce qui me rend belle, c'est précisément ça ma meilleure arme, c'est précisément ça ma protection. Parce que ma beauté, je veux la garder pour un seul. Je veux la garder pour le seul. c'est pas en mettant des verrous et des barres et tout ça. C'est ma beauté, c'est ce que j'ai d'attirant qui est ma seule véritable protection. C'est extraordinaire ce passage. Et je suis devenu à ses yeux celle qui a trouvé la paix. Shalom, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé Salomon. Alors, Salomon avait une vigne à Baal Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun devait payer pour son fruit 1000 pièces d'argent. Là, on se dit, alors là, pour le coup, qu'est-ce que ça fait là? On a l'impression que c'est un morceau de contrat. Mais c'est ironique, en fait. Hein. On repasse à la logique des frères. Donc, elle se fout de leur gueule. On va dire, c'est ça que vous voulez? Je suis pour vous, je suis juste. Voilà, tiens, alors c'est quoi ma sœur? Ben oui, j'ai gardé le copain. Bonne affaire, on a tiré 2000 dollars quand même avec celle-là. Donc, vous voyez, le côté. Elle dit, mais non, mais je suis pas comme les mercenaires. Qui travaillent les travailleurs saisonniers. On achète ma vigne à moi, je l'ai sous mes yeux, à toi Salomon les 1000 pièces et 200 au gardien de son fruit. Donc elle file quand même 200 à ses frères, mais c'est Salomon qui a les 1000 pièces. Alors lui, toi l'habitante des jardins, des compagnons guettent ta voix, donne-moi de l'entendre. Alors là c'est curieux. Hein. Et elle fuit mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche sur des montagnes embaumées. On est allé au bout du véritable amour là. Enfin bon, alors, je pense qu'on est, déjà. Déjà, enfin, la métaphore conjugale, je trouve qu'elle est. Elle a été quand même très très fortement travaillée. Hein. Et là, on est à l'endroit où cet amour dont on se dit, mais il est tellement énorme qu'il ne peut être qu'exclusif, il va exactement se renverser dans l'opposé en disant, mais c'est tellement grand que ça doit être partagé par tous. Ce qui n'est pas spécialement, petit rappel sur le sacrement du mariage, c'est pas tellement ce qu'on croit sur le sacrement du mariage. Hein. Il y a exclusivité, hein, fidélité, tout ça. Hein. Lui, il lui dit, l'habitante des jardins, des compagnons guettent ta voix, c'est-à-dire, t'es tellement belle que t'es trop grande pour moi, il y en a d'autres qui vont t'aimer. Et elle, elle dit, fuis mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche sur des montagnes embaumées. C'est quand même marrant que ce truc se termine, elle dit au bien-aimé, fuis. C'est très très curieux. Enfin, c'est comme vraiment, il y a un sens de la transcendance de l'amour qui termine, mais c'est une énigme. Enfin, c'est une énigme, et puis c'est le cœur de l'amour. Bon, allez, j'ai dégagé, j'ai trop, je suis désolé. Bon, allez, il n'y a pas de questions, comme ça on va gagner du temps et on va dire tout de suite les complis. Je suis tous les soirs à la Cigale. Non, en revanche, là je suis sérieux, si jamais mon séminaire de recherche vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est parce que j'ai une dérogation. Enfin, vous avez le droit de vous inscrire. Alors c'est un séminaire à la faculté, c'est plus rassurant, ça sera dans. Enfin bon, si vous êtes trail quantique du quantique dans une perspective herméneutique, c'est possible. Allez, on va dire les complis.